RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Bonjour à tous et bienvenue sur RMC, RMC Story. Vous savez que c'est le coup d'envoi des GG, des grandes gueules. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. Je salue mon camarade Olivier Truchot. Je lui souhaite une bonne semaine de vacances. Qui est là aujourd'hui? Joël Dagosséry. Bonjour, madame.
Bonjour
la coach de vie.
Tous.
Nous sommes avec l'avocat Charles Consigny. Bonjour Charles.
Bonjour à tous.
Et puis Emmanuel Devilliers nous accompagne. Bonjour mon cher Emmanuel.
Bonjour à tous.
Le chef d'entreprise Patrick Sébastien va rejoindre les GG tout à l'heure à partir de 11h. Patrick Sébastien qui est dans la polémique, dans la tourmente avec sa chanson sur Delphine Ernotte, Delphine, avec des paroles on ne peut plus crues. Alors lui, il se défend toujours, il est dans la grivoiserie, il est dans la paillardise. Sauf que Delphine Ernotte, la patronne de France Télévisions, celle qui l'a virée, elle l'apprécie guère. Donc du coup, ça lui vaut une plainte pour outrage sexiste et sexuel. Elle a l'intention de porter plainte. Est-ce qu'elle l'a fait? Je ne sais pas encore.
On appelle ça d'un mot français la susceptibilité.
Oh bah quand même, il y a de quoi prendre la mouche quand même, quoi, quand tu vois les paroles. Bon, Patrick Sébastien s'en expliquera tout à l'heure avec nous, bien évidemment. Il répondra aux critiques de madame Ernotte. Avec lui, on parlera de France Télévisions, parce que c'est aujourd'hui, normalement, que doit être publié le rapport de Charles Alloncle. Donc, on en parlera avec les préconisations sur France Télévisions, ce qu'il faut faire comme économie, notamment dans le service public. D'ici là, de quoi aura-t-on parlé? On parlera du maire de Saint-Ouen qui part en guerre contre un fast-food, ça s'appelle Master Poulet. Il ne veut pas qu'il ouvre dans sa ville de Saint-Ouen. De Bruno Retailleau, ça y est, il est en campagne. Et parmi les axes de sa campagne, supprimer 200 000 fonctionnaires. 5 tentatives d'assassinat contre Donald Trump, un record. Un triste record. Pourquoi est-ce qu'il est devenu le président des États-Unis le plus visé par les tentatives d'assassinat? 32-16 pour en discuter avec les GG. Mais d'abord, on va parler d'un mot qui fâche, un mot tabou. On a du mal à comprendre s'il est réel ou pas quand on écoute Patrick Pouyanné, le patron de Total, et le président de la République, Emmanuel Macron. Ce mot, vous l'avez déjà entendu, c'est pénurie. Parce que quand on écoute Patrick Pouyanné, le patron de Total, il estime qu'avec la situation au Moyen-Orient, on pourrait avoir un risque de pénurie. Quant à Emmanuel Macron, il dit pas de panique, attention, on n'en est pas encore là. Alors, qui croire? 32-16 pour en discuter avec les GG, on les écoute.
Nous avons désormais absorbé tout le surplus des stocks. Si la situation perdure encore 2 ou 3 mois, nous entrerons dans une ère de pénurie énergétique.
On n'est pas là pour expliquer le pire des risques. Parce que la pire des choses dans ces moments-là, où il y a des tensions et de l'incertitude géopolitique, c'est que ces tensions soient accrues par des comportements de panique. Et bien souvent, la pénurie, on la crée par ces comportements de panique eux-mêmes. Je crois pouvoir vous dire à ce stade que la situation, elle est contrôlée, qu'aujourd'hui, la situation ne nous fait envisager aucune pénurie.
Alors, c'est le politique et le chef d'entreprise. Le chef d'entreprise de Total, patron mondial, qui lui regarde la situation au Moyen-Orient, regarde aussi les pays d'Asie qui ont les difficultés d'approvisionnement parce que tout passe par le détroit d'Ormuz. Lui, il fait des perspectives en tant que chef d'entreprise, il regarde le marché. Et puis vous avez Emmanuel Macron qui lui fait de la politique et qui se dit, ouyaïaï, si on dit pénurie, quelles conséquences ça va avoir sur le comportement des consommateurs? En même temps, faut être clair, regardez ce que fait la compagnie Transavia. Transavia, ils annulent des vols, 2% des vols, hein, pour le mois de mai et le mois de juin. Pourquoi? Parce qu'ils disent attention au prix du kérosène et on risque peut-être d'en manquer. Donc, ils anticipent. C'est aussi ce que fait Patrick Pouyanné. Il donne des signes d'anticipation en tant que chef d'entreprise responsable. Alors, qui croire? Est-ce qu'on doit croire Patrick Pouyanné, le patron de Total? Est-ce qu'on doit croire Emmanuel Macron? Qu'est-ce que vous en dites? 32-16, Emmanuel Devilliers.
Le sentiment qu'on a, c'est qu'on a toujours un train de retard, quoi, avec les politiques. Parce que les politiques commentent. Le président de la République, qui n'est pas dépourvu de talent, je le rappelle, mais a une petite tendance stalinienne à vouloir proclamer des choses pour subjuguer la réalité. Mais dans la vie, ça ne fonctionne pas comme ça. Et il y a ceux d'autre part qui agissent, dont c'est l'activité, dont Pouyanné, le président du groupe Total, qui effectivement, un peu comme le pape avec toutes les représentations diplomatiques, a des remontées de l'ensemble des activités de son groupe, qui, avec un minimum de savoir-faire de synthèse, le conduisent à penser qu'on est en zone de risque. Alors, anecdotiquement, on a même, nous, les Français, commencé par libérer un peu de nos stocks stratégiques, par démagogie politique. C'était il fallait faire l'inverse.
On a 90 jours de stocks stratégiques.
On avait 90 jours de stocks stratégiques. On a commencé à en libérer pour faire reset au sondage. C'est exactement le contraire de ce qu'il aurait fallu faire. Il aurait fallu les conforter. Oui, il y a un risque de pénurie. Et quand on voit l'attentat de Trump qui éclipse la guerre en Iran, qui est dramatique, qui elle-même éclipse la guerre en Ukraine, qui est tragique. On est dans un show business extrêmement dangereux, parce que nous, à la base, les habitants de France et d'autres pays, on a besoin de ce carburant.
Donc il faut le langage de vérité. Le langage de vérité, c'est celui de Monsieur Pouyanné.
Oui, et il faudrait que tout le monde se concentre, y compris l'Amérique. L'attentat est passé, il n'y a pas eu de mort. C'est une anecdote regrettable avec des amateurs aussi, dont on parlera peut-être tout à l'heure. Maintenant, il faut se concentrer, parce qu'on ne peut pas se passer de carburant. Cette guerre en Iran est irresponsable, et le blocage du détroit de Hormuz a un effet domino dont on ne connaît pas les conséquences, qui peut nous mener à l'hiver prochain sans carburant.
Parce que ce que dit Patrick Pouyanné, c'est 20% du commerce mondial. Mondial du carburant hein, qui passe par le détroit d'Hormuz. C'est essentiellement les pays asiatiques. Si ça continue, ces pays asiatiques là qui pour le moment font face, à un moment vont dire bon bah écoutez les gars, puisque ça ne passe plus par le détroit d'Hormuz, quels sont les autres pays qui vendent? Et quand on connaît leur puissance de feu monétaire, vous dire l'Algérie vous en vendez, le Nigeria vous en vendez, le Venezuela vous en vendez. Ah ben on vous le prend et en plus on vous le prend même plus cher. Et donc ce qui veut dire qu'à ce moment-là, ça tombera sur la gueule de qui? De nos pommes, les amis. Madame Joëlle Dagosséry.
J'ai plutôt tendance à croire...
Monsieur Pouyanné.
En tout cas, à écouter de manière plus attentive Monsieur Pouyanné, qui est quand même sur le terrain, si on peut dire ça comme ça, qui pratique l'essence jour et nuit, et qui ne fait pas de politique, même si je fais attention à ça, parce que là, il faut regarder, quand même, ils s'en mettent plein les fouilles, si je peux dire ça comme
on
ça.
On parlera tout à l'heure des
donc,
distributeurs des
marges.
Donc,
le fait de parler de pénurie explique aussi le fait qu'on puisse tenir les prix à un certain niveau. Donc, voilà, je mets un peu de bémol, mais néanmoins, je crois plus M. Pouyanné. Le président Macron, lui, il fait de la psychologie. Je veux dire, il fait pas... de l'économie, c'est-à-dire il nous dit attention, faut pas dire ce mot-là.
Sachant que sinon, dans un an il est plus à l'Élysée en plus, donc il pourrait très bien tenir le langage de vérité.
Oui, hein, oui, mais là il fait de la psychologie parce qu'en fait il essaie de maintenir nos comportements, d'orienter nos comportements afin qu'on n'aille pas tous se ruer à la pompe et retirer de l'essence. Donc ça, moi je mets pas ça dans le cadre de l'économie, je vois plus ça dans le cadre de la psychologie. Et enfin, il y a pas d'alternative. Je veux dire, le président Macron, il nous dit pas attention. De toute façon, nous, on a telle alternative. Bah, tu vois, il parlait, Emmanuel, de Nigeria, d'Algérie, etc. Quand on prend la situation géopolitique en amont de cette crise, on s'est quand même brouillé avec pas mal de nos de pays qui
de pourraient... Nos voisins, voilà, de oui, nos voisins, qui nous alimentent.
Voilà, exactement. Donc, on ne nous présente pas une alternative concrète en disant, OK, là, il y a 20% qui vont être bloqués par ce passage-là, mais vous inquiétez pas, nous, on est en train de débloquer ça à droite, débloquer ça à gauche. Ce que j'ai entendu, moi, de Le Cornu, c'était plus une alternative au niveau de l'électricité. Voilà, comment on va passer au tout électrique, etc., pour combler ce manque d'essence. Donc aujourd'hui, je vais plus tendre l'oreille vers Monsieur Pouyanné, voilà.
Charles Consigny.
Effectivement, on a tendance plus à croire Patrick Pouyanné, qui a l'air de dire davantage la vérité, que Emmanuel Macron, qui est dans un autre rôle, tout à fait respectable, qui est celui de maintenir le pays dans le calme.
Factuellement, il a raison. Là, pour le moment, on n'a pas de risque de pénurie d'approvisionnement. Il y a à peine 2,8% des stations qui ne sont pas réapprovisionnées. Donc, factuellement, aujourd'hui,
aujourd'hui.
Non, il dit c'est à moyen terme. Voilà, ouais.
Donc, il parle pas pour aujourd'hui. Donc, Macron, il parle aussi pour l'avenir en disant qu'il n'y a pas de risque de pénurie pour l'avenir. Effectivement, je pense que de toute façon, si le président de la République disait la vérité sur tous les sujets, il y aurait une guerre civile et un réarmement de chacun au sens propre du terme, mais non pas seulement démographique. Donc je pense qu'il est dans son rôle, mais qu'en même temps, il nous ment au moins par omission, disons. Après, je considère par ailleurs qu'il est aussi de la responsabilité du groupe Total de s'assurer qu'il n'y ait pas de pénurie. Je veux dire, ils font des profits considérables en ce moment. On nous dit, oui, ils font l'essentiel de leur business à l'étranger, etc. Ils adorent dire ça, les grands groupes.
Ce qui est vrai.
Oui, enfin bon, il n'y a pas un voyage présidentiel dans lequel il n'y a pas le patron de Total. Je veux dire, Total, il s'appuie aussi, un groupe qui s'appuie, comme tous nos grands groupes exportateurs, et installés à l'étranger.
Heureusement qu'on a des champions du monde industriels.
Oui,
même.
Mais dans ce cas-là, il ne faut pas qu'ils soient...
Il ne faut pas uniquement partir dans les pays étrangers avec une carte postale de la Tour Eiffel.
Oui, mais dans ce cas-là, il ne faut pas se comporter comme des apatrides. Ils sont, je veux dire, un groupe comme Total s'appuie beaucoup sur la puissance de la France, sur la puissance de l'armée française, sur le réseau diplomatique français, sur les voyages présidentiels ici et là. Il y a toujours dans l'avion ou concomitamment, il y a le patron de Total.
Oui, c'est même à se demander si c'est pas plutôt Emmanuel Macron qui accompagne Monsieur Pouyanné dans ces cas-là, si tu veux.
Parce n'exagérons rien.
Si tu veux, qui est reçu? Oui, ben regarde, le patron d'LVMH ou Monsieur Pouyanné, ils ont reçu avec quand tu représentes Total.
Avec les honneurs du chef d'État, ah, oui, sans doute.
Vu la puissance financière que tu représentes, la puissance économique, les emplois que tu crées quand tu dis LVMH s'implante dans tel pays ou Total s'implante dans tel pays, tu es content.
Après, le précédent patron de Total. Il avait Christophe manifestement pas la même sécurité que le président de la République, tu vois.
Il a eu un accident d'avion en Russie.
Ouais. Monsieur de Marjorie. C'est pas encore des chefs d'État. Mais voilà, moi je trouve que on doit quand même exiger de nos grands groupes qui se montrent un peu patriotes. Je veux dire, on exige bien de tout un chacun qui prenne les armes.
Il est patriote, Pouyanné, regarde. Il plafonne l'essence à 1,99.
Et bien qu'il continue.
Celui qui fait le plus pour le pouvoir d'achat, c'est Patrick Pouyanné, avec Total.
Mais naviguant dans ce délire électoraliste des politiques depuis suffisamment d'années, peut-être qu'il se garantit une forme de sécurité pour la suite. En annonçant, pour qu'on ne lui reproche pas une pénurie qui pourrait venir, même partielle, en disant j'avais anticipé, parce qu'évidemment les reproches viendront ensuite sur les gros distributeurs.
Le problème, c'est qu'on n'a pas la main sur le conflit au Moyen-Orient. Ça dépend pas de nous, donc si tu veux.
C'est d'ailleurs pas normal, Alain, là je fais une digression, mais parce qu'il faut dire la vérité, parce que la situation est grave, c'est pas normal qu'au dîner des correspondants de presse, alors les journalistes, vous êtes les rois, faut vous cirer les pompes, mais quand même, c'est pas normal que tous les dirigeants américains soient en smoking, avec pas une pellicule sur l'épaule, alors qu'il y a ce bordel au Moyen-Orient et pour le monde entier, avec des pays en voie de développement qui souffrent énormément. Une amie philippine m'a dit que par endroit aux Philippines, le carburant a triplé. Donc il y a des gens pour qui ça devient dramatique. Ils devraient se mobiliser. Au lieu de plastronner en smoking, l'heure est grave.
Trump a décidé de maintenir ce dîner des correspondants de presse de la Maison Blanche. C'est une tradition quasiment séculaire, quoi. Ça fait presque un siècle, voilà, ça existe.
Je crois qu'il l'avait zappé la fois dernière.
Oui,
et là, il tenait à le faire.
La pénurie, elle est dans notre portefeuille. Moi, je dis clairement, ça commence à être chaud au niveau des prix pour aller faire tes courses. Parce que moi, j'ai pas d'essence, mais je le vois sur les prix des courses. Donc la pénurie, là où elle guette, c'est dans le porte-monnaie des Français. Et à un moment, moi, je vois qu'il y a une sorte de silence, une sorte d'apathie comme ça. Mais ça, je n'y crois pas. Je crois que ça va faire très très mal aux prochaines élections. Et ce silence que l'on voit et que le président peut-être peut croire pour je maintiens, je contrôle les Français, je leur dis allez ne vous déplacez pas, etc. Ça cache une colère et un ras-le-bol sans nom.
Bon, on a David qui veut réagir, il est dans la Drôme. Bonjour David, agent de production, bienvenue David.
Oui, bonjour les grandes gueules.
Qui vous écoutez attentivement, Monsieur Pouyanné ou le président de la République alors, David?
Monsieur Pouyanné, évidemment, ça fait bien longtemps que j'écoute plus ce que Monsieur Macron dit. Moi, je viens de comprendre, même si j'aurais dû peut-être le comprendre déjà avant, mais Monsieur Macron, il a été bercé trop près du mur. Où il y a eu un accident de poussée.
N'exagérons pas.
Ah mais écoutez, quand on l'entend, il a dit en Grèce, oui mais non, vous savez, on est tous embarqués dans la même galère.
Ah, il a raison.
Oui mais bon, je me souviens pas qu'il ait eu un problème.
C'est pas nous qui avons déclenché la guerre au Moyen-Orient non plus, David.
Non, je suis d'accord, mais quand on voit le nombre de Français qui se plaignent de ne pas pouvoir mettre autant d'essence qu'il veut dans sa voiture pour aller travailler, ou que la cacophonie que l'on entend depuis un certain temps dans le gouvernement, entre Maud Bréjon, entre le Premier ministre et même ici Monsieur Macron, écoutez, je suis désolé, c'est vraiment un gouvernement d'incompétents qui ne savent pas diriger un pays comme il faut.
Si, on est coincé par le manque d'argent, David.
La faute à qui?
Celui qui a cramé la caisse.
Ah ben vraiment, donc c'est pas nous Français qui avons dit oh, bah, tiens, on va dépenser l'argent qu'on n'a pas, on va donner ceci à...
Bah, par exemple, vous, dans la Drôme, j'imagine que vous ne pouvez pas vous passer de votre voiture.
Moi, personnellement, non. Et surtout dans certains autres villages qui sont dans les montagnes, évidemment que non. C'est pas possible. Mais je suis désolé, tout le monde a le droit aussi à pouvoir vivre. Il n'y a pas que de mettre de l'essence dans sa voiture. Oui. Il y a tout ce qui tourne autour de ça. L'économie est en train d'exploser partout, que ce soit dans les matières premières, que ce soit dans les magasins. Donc, si on met ça, plus ça, plus ça, plus ça, mais je comprends qu'à un moment ou à un autre, à la fin du mois, il y en a qui disent « Merde !»
Mais David a raison, parce que la hausse vertigineuse des énergies, des carburants et autres énergies annexes, ça n'est que la face apparente de l'iceberg. Je parlais d'effet domino. Il va y avoir une vague montante dans l'ensemble de l'économie de manière diffuse.
Tout à fait. Et M. Pouyanné qui disait, si le conflit continue et le détroit d'Ormuz reste bloqué encore 2 ou 3 mois, mais 2 ou 3 mois, c'est quoi? C'est demain?
Oui, complètement. Sachant que vous avez... Pardon, David, je vous interromps. Sachant que vous avez le blocage du détroit d'Ormuz, et puis vous avez toutes les infrastructures pétrolières aussi et gazières qui ont été touchées. Ce qui veut dire que même si le détroit d'Ormuz se débloque, le temps qu'ensuite que les navires partent et qu'on remette en route aussi toutes les infrastructures, là encore, tout ne sera pas à pleine capacité. David, je vous remercie d'avoir été avec nous. Alors, on a posé la question, qui croire? Emmanuel Macron qui dit pas d'affolement, on n'est pas dans le risque immédiat, ou Total Energy et Monsieur Pouyanné? Ben, vous mettez Monsieur Pouyanné, Total Energy, à plus de 92%. Et du coup, le corollaire, c'est toujours, c'est ce qu'évoquait un peu Charles, c'est-à-dire savoir précisément si les distributeurs font des marges ou pas. Alors, je regardais ce qu'on dit du côté du gouvernement. On dit le décret est prêt. Oh, vous savez, le décret est prêt pour aller taxer les marges des distributeurs. Alors, est-ce qu'il faut y aller? Est-ce que le gouvernement doit dégainer son décret et taxer les marges des distributeurs? Est-ce que le gouvernement doit sévir? 32-16 pour venir en discuter avec les GG, avec les grandes gueules, d'autant plus que les prix à la pompe, c'est vous qui les constatez. On vous attend, il est 9h20.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Les GG, les grandes gueules, c'est avec vous bien évidemment en direct sur RMC et RMC Story. Qui est là? Emmanuel Devilliers, le chef d'entreprise, Joël Dagosséry, la coach de vie. Puis nous sommes avec Charles Consigny, l'avocat. Et je rappelle tout à l'heure le rendez-vous à 11h. C'est Patrick Sébastien qui nous rejoindra. Patrick Sébastien qui, entre polémique et annulation de concert, sort son nouvel album Olé Olé Volume 2, Olé Osé, avec la chanson sur Delphine Ernotte. Bon, il viendra répondre aux critiques et au fait que Delphine Ernotte veut porter plainte contre lui tout à l'heure à 11h. D'ici là, on aura pas mal de sujets de discussion, mais on va continuer d'évoquer les carburants avec vous, bien sûr, au 32-16. Parce que les distributeurs auraient grossi les marges en pleine crise du carburant. Alors là, c'est toujours pareil. On a du mal à savoir précisément de combien ils ont pu grossir les marges et ce qu'ils ont engrangé comme profit. Alors, face à ces révélations du côté du gouvernement, on temporise, on dit oui, attendez, les chiffres sont pas forcément étayés, il faut qu'on vérifie. Et il y a même des élus qui disent, des élus de la majorité, dans le camp gouvernemental, disent, on est prêt à agir. On est prêt à agir, je cite, le décret est prêt, il ne doit pas y avoir de profit dans cette crise. Alors c'est vrai qu'à chaque fois c'est, on est prêt, on va pas tarder à y aller, on va dégainer, on va taxer. Alors c'est vrai que le fameux décret sur les marges des distributeurs, c'est une usine à gaz dont on mesurera pas bien les effets. On a préféré mettre en place des mesures pour les rouleurs, les grands rouleurs, avec des effets de seuil où là aussi c'est un peu compliqué. Donc, est-ce qu'à un moment ou à un autre, le gouvernement dise, allez, maintenant, stop, on doit sévir, oui ou non? Emmanuel Devilliers.
Moi, de mon point de vue, en tant qu'entrepreneur de PME, un entrepreneur de PME, c'est quelqu'un qui se bat en permanence, qui a un peu tout le monde contre lui au moins à certains moments. Là, c'est un manque d'autorité. C'est un manque d'autorité de l'État. Au lieu de faire les malins sur les plateaux télé là, à raconter leurs trucs, à essayer de se faire connaître, mais les distributeurs, ils sont combien? Ils sont 5 ou 6 à peu près. Ben vous les convoquez ou individuellement ou collectivement, ou vous faites un mix des deux, et vous les mettez en demeure physiquement. vous leur dites, attendez, on va vous faire des contrôles fiscaux, on va vérifier parce que c'est nous l'État. Et les distributeurs, au lieu de faire des marchés.
Faut sévir, faut dégainer.
Évidemment,
faut
mais pour
taxer,
ça, faut avoir de l'autorité personnelle, physique, en tant qu'homme ou en tant que femme ministre. Mais ce sont des couilles molles, des incapables.
Sébastien Lecornu, il n'a pas d'autorité naturelle.
Lui, pas plus que les autres.
C'est le chef du gouvernement, c'est à lui aujourd'hui.
Il n'y en a aucun qui a de l'autorité parce que c'est des gens qui font de la politique parce qu'ils ont échoué partout.
Mais en plus, là, je te dis, ils se représentent pas. Enfin, ils seront pas là l'année prochaine, sauf si Sébastien Lecornu a des ambitions présidentielles. Mais aujourd'hui, ce serait plutôt populaire de dire, vous vous en mettez plein les poches, boum, voilà. On vous taxe.
Et il devrait, à l'inverse, plutôt que de faire des marges supplémentaires, ils devraient tenir compte de la situation et écraser un peu leurs marges, ceci se compensant par le volume. C'est pas hier que l'affaire s'est manifestée, ça va faire des semaines. Et on fait pas la guerre le 12 novembre 18.
Joël Dagosséry.
Oui, ils peuvent pas avoir d'autorité parce qu'ils montrent pas l'exemple, tout simplement.
C'est-à-dire comment devraient montrer l'exemple?
Quand tu taxes à 60%, eh ben, tu vas venir crier sur Michel-Édouard Leclerc pour lui dire « Attention monsieur, tes marges !» Il va te dire « Bah toi aussi, pourquoi est-ce que toi tu baisses pas tes taxes? Pourquoi est-ce que t'enlèves pas toi aussi ?» Donc chacun doit faire un effort, tu dois montrer l'exemple. Tu peux pas continuer à taxer un produit à 60% et dire à des entrepreneurs, à des chefs d'entreprise « Dis donc, vous devriez baisser vos marges !» Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ben non, le prix de l'essence, il est composé aussi des taxes de l'État. Donc, si t'as envie d'avoir un levier sur les distributeurs, tu dois leur dire, écoutez, là, on doit tous faire un effort. C'est important. Nous, on va baisser de tant pour cent. Nous, on vous demande aussi d'agir de votre côté et de baisser.
Oui, mais tu as raison. Il doit y avoir un effort conjoint.
Tu
dois
pas continuer à taxer à 60% et dire aux autres, pop, dis donc, vous allez pas faire de profit.
Sauf qu'il y en a un qui engrange des profits dont les caisses sont pleines et l'autre qui a les caisses vides.
Oui,
celui qui a les caisses vides, c'est l'État.
Il a les caisses vides, mais c'est marrant parce que l'État agit toujours comme ça. C'est-à-dire que lui, il a les caisses vides. Il se fait aucune réforme. Il se donne aucun mal. Par contre, sur les Français, les entrepreneurs, les citoyens, là, on va chercher du contrôle fiscal, les marges, est-ce que c'est pas un petit peu trop, etc. Mais il y a un moment où nous, on demande à ce que l'État commence à se questionner lui-même et se dire, tiens, il serait intéressant quand même que moi, je touche aussi à mon fonctionnement et à ma façon de taxer les Français. Donc moi, je suis d'accord avec toi, Emmanuel, bien sûr, mais il faut un État qui montre l'exemple. On peut pas continuer à taxer à 60% un produit et dire à des chefs d'entreprise, d'autant plus que moi, je rappelle souvent que on parle d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise, mais il y a des salariés derrière. Et je rappelle souvent que moi, j'ai été salarié, que quand une entreprise fait des affaires florissantes, eh ben moi, je suis intéressé. Et j'ai une prime, exactement. Et donc, les milliers de salariés de Total et je ne sais, de l'éclair, etc., vont normalement avoir à la fin de l'année, ou là je crois que ça en général c'est au mois de mai, mois de juin
ouais.
Voilà, exactement, une prime d'intéressement, de participation, etc., et donc voir leur pouvoir
donc,
d'achat
foutez augmenter. La paix au bénéfice de Total,
oui,
quoi, c'est ça.
Oui, parce qu'on oublie souvent que derrière il n'y a pas que le Total qui mange, il y a tous ceux qui travaillent pour Total. Donc je demande à l'État d'agir sur lui-même, de montrer l'exemple et ensuite d'aller taper sur qui il veut taper.
Charles Consigny.
De toute évidence, on a un gouvernement extrêmement faible.
Ça, oui.
Y a personne dans ce gouvernement, il faut dire les choses comme elles sont.
Est-ce que tu as besoin d'être fort pour imposer une taxe aux distributeurs? Pas forcément.
Tu as dit toi-même que le président de Total était reçu avec plus d'égards parfois qu'un chef d'État. Moi, je pense qu'ils sont très faibles et qu'ils ne savent pas par quel bout prendre le truc. Il est vrai qu'à leur place, je n'agiterai pas de menace. Soit tu tapes directement pour montrer que tu es fort, soit en fait tu n'es pas en capacité de le faire. Et dans ces cas-là, ça ne sert à rien d'agiter une menace. En plus, on sait très bien en quoi ça consistera, leur décret. Un truc vaseux qui finalement ne touchera pas les boîtes concernées, ne rapportera rien. Voilà, on sait comment ça marche quand c'est tricoté comme ça. Donc je ne crois pas trop à leur décret. En revanche, ce que je trouve intéressant, c'est de voir que...
Oui, tu crois pas trop à leur décret, sauf que, si tu veux, ça fait combien maintenant? Un mois? Ça fait un mois qu'on on va le faire...
Deux mois.
On va prendre des mesures, ne vous inquiétez pas, on agit, on prend le temps de la réflexion.
Mais oui,
Alain, en attendant, on passe à la pompe.
Qu'est-ce que vous faites?
Dans le monde de l'entreprise,
c'est chaque heure qui compte quand on est en difficulté.
Parce que... La première chose, c'est qu'ils espéraient que cette situation se calme, que le prix de l'essence baisse.
Il y avait vraiment qu'eux qui croyaient.
C'est pour ça qu'ils n'ont rien fait. En tout cas, ils essayaient de gagner du temps. Là, ils essayent toujours, en réalité, de gagner du temps. Ça n'a pas beaucoup changé. Et de toute façon, leur mandat est de gagner du temps.
Sébastien Lecornu, il est là pour durer, on est d'accord.
Ils sont là ouais, mais tu depuis peux très bien... l'origine pour gagner du temps non, mais politique.
Durer, ça veut dire ne rien faire, alors, c'est ça?
Oui, je pense qu'ils ne vont rien faire.
D'accord.
En revanche, je trouve qu'il y a un truc intéressant. Je ne te dis pas que je soutiens le
non, non, je comprends rien
faire,
ouais.
Je pense qu'ils ne vont rien faire. Ce que je trouve intéressant, c'est de voir qu'il est difficile de savoir si Total et d'autres entreprises du même secteur font ce qu'on appelle des surprofits en ce moment, sont des profiteurs de crise. Est-ce qu'ils sont en train de se faire une pelote sur le dos des Français avec la guerre en Iran qui a bon dos dans l'histoire, voilà. Et le fait qu'on n'arrive pas à élucider ça me paraît intéressant. C'est-à-dire, je pense comme Martine Aubry que quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Et qu'ils sont effectivement en train de s'en mettre joyeusement plein les poches. Donc moi, si j'étais à la place de Mister Lecornu et des autres, effectivement, je donnerais un petit tour de vis pour en appeler au patriotisme de nos groupes pétroliers bah, tu sais, ne se fassent pas de l'argent indu sur le dos des Français. Mais je rejoins Joël sur la question des taxes. Je pense qu'on doit supprimer certaines taxes sur l'essence. Et notamment, j'ai eu souvent l'occasion de le dire, les 15 centimes par litre qui sont fléchés vers des projets écologiques, c'est peut-être pas la priorité absolue en ce moment.
On a Gilles qui est avec nous. Bonjour Gilles.
Bonjour à toute l'équipe.
Conducteur poids lourd du côté de l'Isère. Qu'est-ce que vous en dites alors? Il est temps de dégainer la taxe, la sanction ou pas, Gilles?
Comment dire, les prédateurs sont jamais plus à l'aise que dans la confusion. Donc voilà, je n'ai plus aucune attention, crédit ou quoi que ce soit accordé à nos gouvernants. Mm-hmm. Moi, je constate simplement, parce qu'on peut parler des heures, sortir des chiffres, des choses, de tout ce qu'on veut. On avait des milliards, on avait un matelas. Mm-hmm. Voilà. Maintenant que le pays en a besoin, il y en a plus. Ils sont où? Mmh. Toute entreprise qui a réussi à se faire un peu de trésor, à mettre un peu de côté, comme tout bon père de famille d'ailleurs, on a un matelas de secours, ça peut servir pour les coups durs. On avait un matelas, on avait de l'argent, puisqu'ils en ont sorti des milliards pour donner à l'Ukraine. Et maintenant qu'on en a besoin, il n'y en a plus. Et maintenant, cette responsabilité-là, le gouvernant, comme tout bon prédateur, reprojette sa responsabilité sur les distributeurs. Les distributeurs, eux, ils font leur marge comme tout le monde.
Et les prix, oui,
mais
oui,
les milliards qui étaient balancés à l'Ukraine, que le pays avait besoin, il n'y en a plus. Donc ils ont trahi le pays, clair et net. Clair et net. Je n'ai plus confiance. Moi, je sortirai les JB pour nos gouvernants. On n'en peut plus de ces gens-là. Ils détruisent le pays. Ils détruisent 68 000 dépôts de bilan cette année.
JB de potence, de potence. C'est une image qu'emploie Gilles, qui bien évidemment est en colère et sévère.
Son analyse est synthétique, mais il a parfaitement raison.
Gilles, mais aujourd'hui, vous voyez, quand on regarde Total qui avait spéculé sur le prix du pétrole et qui a engrangé $1 milliard au mois de mars parce qu'il avait acheté des stocks en misant sur la crise. Peut-être que là, il y a peut-être une taxe à faire, là.
Mais les taxes, mais arrêtez avec les taxes. Oui, il y a de pourcentage de taxes sur un litre de gasoil. Alors, faut arrêter à un moment. Quand le sage monte la lune du doigt, l'imbécile regarde le doigt. Alors, on monte du doigt Total. Vous savez, c'est la bonne technique de la stigmatisation. Regardez comme il est méchant. C'est pas de notre faute, c'est lui. Mais quand même, les 17 centimes de la fameuse taxe sur la consommation, faut qu'ils arrêtent de se foutre de nous, quoi.
Alors, Gilles, vous dites, il y en a assez, là, de l'incompétence. Il y a Olivier qui veut réagir. Il nous appelle de Lyon, artisan dans le bâtiment. Bonjour, Olivier.
Oui, bonjour à tous. Oui, ben moi je suis à 200% d'accord avec Gilles, mais moi il y a une expression qui me hérisse le poil, c'est de toute façon dans un an ils sont plus là. Mais je sais pas si vous êtes au courant, mais un an, c'est même déjà dans plus d'un an, mais il y a des gens qui ont largement le temps de crever, parce que là c'est le l'histoire du carburant, en fait ça montre vraiment la grosse problématique de notre pays, hein. Alors il y a plus d'argent, de toute façon moi je n'attends pas d'argent, je ne veux pas d'argent, moi je veux pouvoir vivre en tant qu'artisan. Je vais pouvoir vivre de mon travail comme la moitié ou une grosse partie des gens de ce pays. Mais pour revenir sur ce que Gilles a dit, alors c'est facile de montrer du doigt les gens comme Total, mais effectivement qu'on balaye déjà, quand je dis on, que le gouvernement balaye devant sa porte. Alors après on va s'entendre dire dans quelques mois, ah bah oui, mais il n'y a rien eu de fait parce que finalement un tel a des actions dans ci, un tel a des vues sur ça, et puis bah voilà quoi, c'est une chaîne sans fin. En fait il faut renverser
renverser la table, mais c'est même plus renverser la table.
Il faut attendre l'élection présidentielle l'année prochaine.
Mais vous voyez la gabegie que ça va devenir. Non, mais c'est juste. Il y en a plus que ras-le-bol. Je peux vous dire que.
Olivier a raison. C'est triste à dire, il faudrait pas le dire, mais la France est indressable.
Oui, Olivier a raison. Un an, c'est pas possible parce que, ok, ils partent dans un an avec un peu de chance, et ensuite il faut du temps pour reconstruire ce pays, son influence, sa souveraineté. À chaque fois qu'on a eu une crise, on a une crise de la souveraineté. Le Covid nous l'a montré qu'on avait une crise de la souveraineté. L'Ukraine, avec notre dépendance aux États-Unis, etc., nous a montré qu'on avait une crise de la souveraineté européenne, française. Et là, pareil, on a une crise de la souveraineté. On n'est pas capable, en fait, sans le détroit d'Ormuz, de se débrouiller. Donc, pour
On ne dépend pas, nous, du détroit d'Ormuz en France. Hein. On dépend de l'Algérie, on dépend du Nigeria, on dépend de...
Oui, mais d'accord, mais pareil, diplomatiquement...
La Norvège, le pétrole norvégien.
On a quand même saccagé notre diplomatie. Donc, ça va nous prendre des années, bien plus qu'un an. Et encore, si on a un président qui se retrousse les manches. Voilà. Donc, on en a pour 10 ans.
Alors, merci à Olivier et à Gilles. Deux coups de gueule que l'on vient d'entendre. On a posé la question, est-ce que le gouvernement maintenant doit sévir face aux marges et au profit des uns et des autres? Alors, c'est un oui à 54 et un non à 46%. Voilà pour nos discussions en ce qui concerne les carburants, l'hydrocarbure, les prix qui continuent de monter. Tiens, moi j'ai un petit cadeau pour vous, mais pour ça il faut bien rester à l'écoute d'RMC. Vous savez ce que c'est? J'ai l'expérience RMC, j'ai Paris Saint-Germain, Bayern Munich, j'ai des places à vous offrir. Le match il est demain, mais il faut bien rester à l'écoute d'RMC. Dès que vous entendez l'hymne de la Ligue des Champions, vous n'aurez juste à envoyer PSG par SMS au 732-16. Restez à l'écoute. Des fois que l'hymne arrive d'ici quelques minutes, c'est les dernières places pour assister à PSG Bayern demain. Il est 10h-20 dans un instant. Là, on s'en fout pas.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Grande gueule sur RMC, RMC Story. Dans les GG, aujourd'hui, nous sommes avec Joël Dagosséry, la coach de vie, Emmanuel Debillet, le chef d'entreprise, et Charles Consigny, l'avocat. Il est 10h moins le quart, on y va pour le On s'en fout. Oh là ! J'allais dire on y va pour le on s'en fout pas. Pas encore, ça y est, c'est l'hymne de la Ligue des Champions, ce qui veut dire que l'expérience Paris Saint-Germain, Bayern Munich, elle est pour vous. Ce sont les dernières places à vous offrir en envoyant. Vous avez 5 minutes, hein, pour envoyer PSG par SMS au 732-16. PSG par SMS au 732-16. Ce sont vos places. Vous avez d'abord l'avant-match avec les émissions d'RMC, les émissions foot. Ensuite, vous allez au Parc des Princes avec la personne de votre choix. Et ensuite, vous revenez à RMC pour débriefer le match aller en direct dans nos studios. Donc, l'expérience RMC, elle est pour vous. Vous envoyez PSG par SMS au 732-16. Tirage au sort cet après-midi dans le Super Moscato Show à partir de 15h. Allez, 10h moins le quart, on accueille Anaïs Inès Seitz.
RMC, les grandes gueules.
On s'en fout. On s'en fout pas.
Bonjour Anaïs.
Bonjour les GG, bonjour à tous. Brigitte Macron a confié être parfois triste comme jamais elle ne l'a été avant son arrivée à l'Élysée dans une interview accordée à la Tribune du dimanche. On s'en fout pas, Joël?
On s'en fout pas.
Charles?
On s'en fout pas.
Emmanuel?
Non plus.
Avant, j'avais une vie normale, des enfants, un job, des hauts et des bas comme tout le monde. Ici, j'ai vu la noirceur du monde, la bêtise, la méchanceté. L'ancienne prof de français victime de cyberharcèlement, hein, depuis plusieurs années, avec les rumeurs complotistes, la présentant comme une femme transgenre. D'ailleurs, plusieurs de ces cyberharceleurs ont été condamnés en France en janvier dernier, des peines allant jusqu'à 6 mois de prison ferme quand même. Emmanuel, pourquoi tu ne t'en fous pas?
Ça illustre tout simplement que même à ce niveau, on ne peut pas être imperméable durablement aux attaques, aux critiques. À ce niveau aussi, on n'a pas vraiment d'amis, on ne peut plus avoir vraiment d'amis parce qu'on n'arrive plus à discerner ce qui relève de l'amitié personnelle ou de commencement d'un intérêt. Et puis l'époque actuelle est aussi à l'absence de soutien, car même si on n'est pas au pouvoir, est-ce qu'on a encore des amis quand on est en difficulté? On est dans une époque qui devient un peu impitoyable et moi j'apprécie la sincérité du propos de Macron.
Joël.
Joël.
Moi, je trouve que c'est assez courageux de le dire, puisque beaucoup de Français considèrent que elle a pas à se plaindre. Voilà, ne regarde que elle est sortie, elle est habillée comme si, etc. Donc c'est courageux de dire que c'est assez compliqué, parce que c'est une cage dorée. Moi, j'imagine que ça doit être c'est une belle cage, mais c'est aussi une cage dorée.
Oui, t'es pas libre de tes mouvements, ni de ce que tu dis, ce que tu fais.
Il y a beaucoup de gens qui sont méchants, en fait, qui sont devenus méchants, déjà avec les réseaux sociaux, parce qu'ils se sentent à distance et pas complètement impliqués dans leurs propos, puisque personne ne sait qui ils sont. Ils peuvent aller très bien au travail le matin et être insultants et très méchants sur les réseaux sociaux, par exemple. Et donc, il y a une sorte de décalage entre ce qu'ils sont, l'image dans leur quotidien, et ce qu'ils sont en ligne. Donc, moi, j'aspire à ce que le dernier mot de notre devise, qui est fraternité, soit remis un peu au goût du jour, parce que les gens deviennent très radicaux et assez méchants.
Charles, les états d'âme de Madame Macron?
Non, mais d'abord, comme j'ai eu l'occasion de le dire, moi je trouve que Madame Macron a bien tenu son rang depuis la prise de pouvoir de son mari. Je considère qu'elle a rempli son office de première dame avec une certaine dignité.
C'est-à-dire, bah oui, mais c'est quoi le rôle de première dame? C'est juste d'être son bras de son mari?
Non, mais elle a pas fait que ça. Elle a dit un
petit peu. Mais c'est des opérations de charité, hein.
Elle a l'a accompagnée dans les voyages ici et là. Oui, elle a ça, pas. Ce que je veux dire, c'est par exemple par rapport à Valérie Trierweiler, je suis désolé, il y a quand même un contraste qu'on peut remarquer. Donc je trouve qu'elle a plutôt bien joué son rôle. Après, ils sont tristes, etc. Bon, les Macron ont voulu le pouvoir. Ils l'ont voulu comme des morts de faim.
Peut-être lui plus qu'elle, d'ailleurs.
Ils l'ont eu. Ouf, c'était quand même un power couple. Enfin, ils faisaient ça à deux quand même. Ils travaillaient ensemble.
Peut-être qu'elle s'attendait pas à ce que ce soit si dur.
Ouais, enfin, moi je veux bien que ce soit très dur. Si c'était aussi dur que les uns et les autres le disent, ils se battraient pas comme des malades pour le. Vous savez, c'est Mishima qui dit que oui, c'est vrai. Mais il écrivait cette chose très juste en disant que la vie quotidienne était parfois plus effroyable que la guerre. Et je trouve ça très intéressant. C'est-à-dire parfois le foyer, la maison, le mari, la femme, les enfants, le petit boulot, etc., sont parfois plus effroyables que la guerre. Donc quand on cherche à devenir président, ministre, star, etc., certes après, je doute pas, je remets pas en cause sa sincérité. Je suis sûr que c'est pas facile, mais on vient quand même chercher une forme d'exception. Et dans toute exception, on sait que la gloire est le deuil éclatant du bonheur, par exemple.
Oui, d'accord.
Là, ils sont dedans.
Il y a toute une partie que tu sois sujet à la critique, c'est une chose. Et encore qu'elle, Madame Macron, elle n'a pas de rôle politique. Elle a un rôle que tu as souligné toi-même, qui était essentiellement celui de la représentation et d'œuvre de charité. En revanche, je pense que c'est la première fois qu'une première dame subit autant de violences, d'attaques même mondiales qui ciblent, qui la cible elle, qui la cible sa famille. Est-ce que t'es préparé
elle
à ça?
Elle a subi. Moi, je continue à penser que cette histoire de Jean-Michel Trogneux est une attaque russe en réalité. Mm-hmm. C'est tout à fait les méthodes russes.
C'est sûrement relié.
Alors, soit ils l'ont créé ex nihilo, soit ils l'ont amplifié. Mais c'est un truc russe. Ça, évidemment, je souhaite à personne de vivre ça. Mais malgré tout, je pense quand même, avec tout le respect que j'ai pour elle, et j'ai beaucoup de respect pour elle, je pense que ils ont voulu la vie qu'ils ont.
Voilà. On enchaîne.
Voilà, l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal songe à quitter la France. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Charles?
On ne s'en fout pas.
Joël?
On s'en fout.
Emmanuel?
On s'en fout pas.
La France, c'est fini pour moi. Il me reste quelques mois à tirer dans ce pays. Puis je me tire, à lâcher l'auteur incarcéré pendant un an en Algérie, hein, auprès du Figaro. Pourquoi rester en France avec toutes ces attaques, ces insultes? Il pointe une poignée d'oligarques de la pensée, de petits dictateurs de bureau qui le font passer pour un criminel. C'est pire que la dictature en Algérie, dit Boualem Sansal.
Critiques qui sont d'autant plus virulentes depuis qu'il a annoncé qu'il quittait
exactement
Gallimard pour aller chez Grasset, qui désormais appartient à Vincent Bolloré. Dans l'entretien du Figaro, il dit: je connais pas ce monsieur, j'ai jamais eu affaire à lui, donc qu'on me foute la paix, dit Boualem Sansal.
Emmanuel.
Oui. Alors plusieurs éléments. D'abord, il a frôlé la mort dans une incarcération arbitraire dont on ne voyait pas la fin. On peut même pas imaginer ce qu'il a vécu dans les geôles algériennes. Ensuite, il est victime d'une très grave maladie qui le met également sous pression. Et puis il revient en France et passé quelques félicitations pour son courage, on le met en cause par toute une intelligentsia d'auteurs, confrères, mais eux sans lecteurs, ce qui les rend agressifs, des penseurs très très mal intentionnés. Alors en même temps, il devrait quand même garder le moral parce qu'il a été élu à l'Académie française, qui est le Graal absolu, une reconnaissance.
L'Académie royale belge aussi, oui, maintenant.
Exactement. Une reconnaissance historique. On le comprend dans cette réflexion. Je pense qu'elle n'ira pas à terme. Parce que vouloir quitter la France, beaucoup de gens y pensent, beaucoup de nos auditeurs y pensent. Le seul problème, c'est pour aller où ?
Lui, il envisage la Belgique ou la Suisse. J'espère que c'est pas pour des raisons fiscales, hein, bien évidemment, que quand tu envisages la Belgique ou la Suisse.
Ce serait aussi légitime, hein. Je veux dire, il y a pas de honte à vouloir s'échapper de cet enfer.
C'est pas le cas là pour le coup.
Mais je pense qu'on l'a. Ce que je comprends vu ce qu'il a vécu, mais je crains qu'on l'ait un peu perdu quand même.
Wallem Sansal.
Je pense que je suis pas
à
sûr.
À quel niveau ?
Je suis pas sûr qu'il soit très lucide dans ce qu'il dit.
C'est pour ça qu'il va se raviser.
C'est-à-dire ?
Je pense qu'il sait plus ce qu'il dit.
Les mois de détention,
dire que la France, parce qu'il y a trois bobos qui lui volent dans les plumes, parce qu'il quitte Gallimard, serait pire que la dictature algérienne. Je suis désolé, il faut avoir un peu perdu le sens commun. Donc je pense qu'il a perdu le sens commun. Voilà.
On enchaîne.
Et puis Marine Tondelier qui juge assez manifeste que Jean-Luc Mélenchon ne pourra jamais gagner la présidentielle de 2027. La patronne des écologistes met en garde effectivement contre un trop grand nombre de candidatures à gauche au micro du grand jury RTL, c'était hier. Et le roi du cimetière sera Jean-Luc Mélenchon, dénonce donc Marine Tondelier. On s'en fout ou pas, Emmanuel ?
On s'en fout pas.
Joël ?
On s'en fout pas.
Charles ?
On s'en fout pas.
Joël ?
Je suis pas si sûre que ça, moi, que Jean-Luc Mélenchon ne pourra pas gagner la présidentielle. Je parierais pas beaucoup dessus, dans le sens où il est aujourd'hui, il va mettre le micro dans la gorge.
Mais on t'entend pas.
Il est aujourd'hui, il a une stratégie qui est de polariser, d'être l'anti-tout. D'ailleurs, l'anti-tout ce qui n'est pas lui, donc l'anti-PS, peut-être pas écologique, mais encore, l'anti-RN, l'anti-LR, etc. Donc, j'attends de voir, mais je suis pas sûr.
Charles.
Je ne pense pas que Mélenchon puisse gagner, mais je pense que Marine Tondelier peut encore moins gagner. Les récents résultats électoraux des écolos auraient dû, depuis longtemps, conduire Marine Tondelier à confier à quelqu'un d'autre, à laisser les écologistes choisir une autre figure de proue. Donc je ne suis pas certain que ces analyses soient fondamentales.
Elle parle trop, elle nous fatigue.
Dans un instant, avec les GG, avec les grandes gueules, avec Emmanuel De Villiers, Charles Consigny et Joël Dagosséry, 5 tentatives d'assassinat contre Donald Trump. Pourquoi devient-il le président américain le plus visé ? Et Bruno Retailleau qui veut supprimer 200 000 postes de fonctionnaires. Est-ce que c'est nécessaire ? 32-16 pour en parler.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules.